Chapitre 27, le plus long, où Joseph Rouletabille apparaît dans toute sa gloire. Il y eut un remous terrible. On entendit des cris de femmes qui se trouvaient mal. On n'eut plus aucun égard pour la majesté de la justice. Ce fut une bousculade insensée. Tout le monde voulait voir Joseph Rouletabille. Le président cria qu'il allait faire évacuer la salle, mais personne ne l'entendit. Pendant ce temps, Rouletabille sautait par-dessus la balustrade qui le séparait du public assis, se faisait un chemin à grands coups de coude, arrivait auprès de son directeur qui l'embrassait avec effusion, lui prit sa lettre d'entre les mains, la glissa dans sa poche, pénétra dans la partie réservée du prétoire et parvint ainsi jusqu'à la barre des témoins, bousculés, bousculant, le visage souriant, heureux, boule écarlate, qui illuminait encore l'éclair intelligent de ses deux grands yeux ronds. Il avait ce costume anglais que je lui avais vu le matin de son départ, mais dans quel état, mon Dieu ! L'ulster sur son bras et la casquette de voyage à la main. Et il dit : « Oh, je demande pardon, monsieur le président. Le transatlantique a eu du retard. J'arrive d'Amérique. Je suis Joseph Rouletabille. » On éclata de rire. Tout le monde était heureux de l'arrivée de ce gamin. Il semblait à toutes ses consciences qu'un immense poids venait de leur être enlevé. On respirait, on avait la certitude qu'il apportait réellement la vérité, qu'il allait faire connaître la vérité. Mais le président était furieux. « Ah, vous êtes Joseph Rouletabille !» reprit le président. « Eh bien, je vous apprendrai, jeune homme, à vous moquer de la justice. En attendant que la cour délibère sur votre cas, je vous retiens à la disposition de la justice, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. « Mais, monsieur le président, je ne demande que cela, être à la disposition de la justice. Je suis venu m'y mettre à la disposition de la justice. Si mon entrée a fait un peu de tapage, j'en demande bien pardon à la cour. Croyez bien, monsieur le président, que nul plus que moi n'a le respect de la justice. Mais je suis entré comme j'ai pu. » Et il se mit à rire et tout le monde rit. « Emmenez-le !» commanda le président. Mais maître Henri Robert intervint. Il commença par excuser le jeune homme. Il le montra animé des meilleurs sentiments. Il fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la déposition d'un témoin qui avait couché au glandier pendant toute la semaine mystérieuse, d'un témoin surtout qui prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin. « Vous allez nous dire le nom de l'assassin ?» demanda le président, ébranlé mais sceptique. « Mais mon président, je ne suis venu que pour ça !» fit Rouletabille. On faillit applaudir dans le prétoire, mais les chutes énergiques des huissiers rétablirent le silence. « Joseph Rouletabille, dit maître Henri Robert, n'est pas cité régulièrement comme témoin, mais j'espère qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, monsieur le président voudra bien l'interroger. C'est bien, fit le président, nous l'interrogerons. Mais finissons-en d'abord. L'avocat général se leva. Il vaudrait peut-être mieux, fit remarquer le représentant du ministère public, que ce jeune homme nous dise tout de suite le nom de celui qu'il dénonce comme étant l'assassin. Le président acquiesça avec une ironique réserve. Si monsieur l'avocat général attache quelque importance à la déposition de monsieur Joseph Rouletabille, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le témoin nous dise tout de suite le nom de son assassin. On eut entendu voler une mouche. Rouletabille se taisait, regardant avec sympathie monsieur Robert Darzac, qui, lui, pour la première fois depuis le commencement du débat, montrait un visage agité et plein d'angoisse. « Eh bien, répéta le président, on vous écoute, monsieur Joseph Rouletabille. Nous attendons le nom de l'assassin. » Rouletabille fouilla tranquillement dans la poche de son gousset, en tira un énorme oignon, Il regarde à l'heure et dit « Ah, monsieur le président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Nous avons encore 4 bonnes heures devant nous. » La salle fit entendre des murmures étonnés et désappointés. Quelques avocats dirent à haute voix « Il se moque de nous !» Le président avait l'air enchanté. Maître Henri Robert et Andréès étaient ennuyés. Le président dit « Oh, cette plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer, monsieur, dans la salle des témoins. Je vous garde à notre disposition. » Rouletabille protesta. « Mais je vous affirme, monsieur le président, s'écria-t-il de sa voix aiguë et claironnante, je vous affirme que lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à 6h30. Parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Mais en attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. Monsieur Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au Glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire. J'ai beau être de l'avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter monsieur Darzac, il a fait arrêter un innocent. Il ne doute pas, lui, de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes, qui ont souvent corroboré les siennes. Frédéric Larsan dit « Ah, monsieur le Président, il serait intéressant d'entendre monsieur Joseph Rouletabille, d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. » Un murmure d'approbation accueillit cette parole du policier. Il acceptait le duel en beau joueur. La joute promettait d'être curieuse entre ces deux intelligences qui s'étaient acharnées au même tragique problème et qui étaient arrivées à deux solutions différentes. Comme le président se taisait, Frédéric Larsan continua. Ainsi, nous sommes d'accord pour le coup de couteau au cœur qui a été donné aux gardes par l'assassin de Mlle Stangerson. Mais puisque nous ne sommes plus d'accord sur la question de la fuite de l'assassin dans le bout de la cour, il serait curieux de savoir comment M. Rouletabille explique cette fuite. Évidemment, fit mon ami, ce serait curieux. Toute la salle partit encore à rire. Le président déclara aussitôt que si un pareil fait se renouvelait, il n'hésiterait pas à mettre à exécution sa menace de faire évacuer la salle. Vraiment, termina le président, dans une affaire comme celle-là, je ne vois pas ce qui peut prêter à rire. Moi non plus, dit Rouletabille. Des gens devant moi s'enfoncèrent leurs mouchoirs dans la bouche pour ne pas éclater. Allons, fit le président. Vous avez entendu, jeune homme, ce que vient de dire M. Frédéric Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour ? Rouletabille regarda Mme Mathieu, qui lui sourit tristement. Puisque Madame Mathieu, dit-il, a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait aux gardes. « La coquine !» s'écria le père Mathieu. « Faites sortir le père Mathieu !» ordonna le président. On emmena le père Mathieu. Rouletabille reprit. « Puisqu'elle a fait cet aveu, je puis bien vous dire qu'elle avait souvent des conversations la nuit avec le garde au premier étage du donjon, dans la chambre qui fut autrefois un oratoire. Ces conversations furent surtout fréquentes dans les derniers temps, quand le père Mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes. Une piqûre de morphine administrée à propos donnait au père Mathieu le calme et le repos, et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle était dans l'année cessitée de s'absenter. Madame Mathieu venait au château la nuit, enveloppée dans un grand châle noir, qui lui servait autant que possible à dissimuler sa personnalité et la faisait ressembler à un sombre fantôme qui parfois troubla les nuits du père Jacques. Pour prévenir son ami de sa présence, Madame Mathieu avait emprunté au chat de la mère Agelou une vieille sorcière de Sainte-Geneviève-des-Bois, son miaulement sinistre. Et aussitôt le garde descendait de son donjon et venait ouvrir la petite poterne à sa maîtresse. Quand les réparations du donjon furent récemment entreprises, les rendez-vous n'en eurent pas moins lieu dans l'ancienne chambre du garde, au donjon même, la nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur, à l'extrémité de l'aile droite du château, n'étant séparée du ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière que par une trop mince cloison. Madame Mathieu venait de quitter le garde en parfaite santé quand le drame du petit bout de cour survint. Madame Mathieu et le garde, n'ayant plus rien à se dire, étaient sortis du donjon ensemble. Je n'ai appris ces détails, monsieur le président, que par l'examen auquel je me livrais des traces de pas dans la cour d'honneur le lendemain matin. Bernier, le concierge que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon, ainsi que je lui permettrai de vous l'expliquer lui-même, ne pouvait voir ce qui se passait dans la cour d'honneur. Il y arriva un peu plus tard, qu'attiré par les coups de revolver et tira à son tour. Voici donc le garde et Madame Mathieu dans la nuit et le silence de la cour d'honneur. Ils se souhaitent le bonsoir. Madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de cette cour et lui en retourne se coucher dans la petite pièce en encorbellement à l'extrémité de l'aile droite du château. Il va atteindre sa porte quand des coups de feu revolver retentissent. Il se retourne. Anxieux, il revient sur ses pas, et il va atteindre l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe. Il meurt. Son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui n'emportent que l'assassiné. Pendant ce temps, que fait Madame Mathieu ? Surprise par les détonations et par l'envahissement de la cour, elle se fait la plus petite qu'elle peut dans la nuit et dans la cour d'honneur. La cour est vaste et, se trouvant près de la grille, Madame Mathieu pouvait passer inaperçue. Mais elle ne passa pas, elle resta et vit emporter le cadavre. Le cœur serré d'une angoisse bien compréhensible et poussé par un tragique pressentiment, elle vint jusqu'au vestibule du château, jeta un regard sur l'escalier éclairé par le lumignon du père Jacques, l'escalier où l'on avait étendu le corps de son ami. Elle vit et s'enfuit. Avait-elle éveillé l'attention du père Jacques ? Toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Cette nuit même, avant le crime, il avait été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu et avait aperçu par sa fenêtre le fantôme noir. Il s'était hâtivement vêtu et c'est ainsi que l'on s'explique qu'il arriva dans le vestibule tout habillé quand nous apportâmes le cadavre du garde. Donc, cette nuit-là, dans la cour d'honneur, il a voulu sans doute, une fois pour toutes, regarder de tout près la figure du fantôme. Il l'a reconnu. Le père Jacques est un vieil ami de Madame Mathieu. Elle dut lui avouer ses nocturnes entretiens et le supplier de la sauver de ce moment difficile. L'état de Madame Mathieu qui venait de voir son ami mort devait être pitoyable. Le père Jacques eut pitié et accompagna Madame Mathieu à travers la chênaie et hors du parc, par-delà même les bords de l'étang, jusqu'à la route d'Épinay. Là, elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle. Le père Jacques revint au château et se rendant compte de l'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse du garde à ce qu'on ignorât sa présence au château cette nuit-là, essaya autant que possible de nous cacher cet épisode dramatique d'une nuit qui déjà en comptait tant. Bon, « je n'ai nul besoin, ajouta Rouletabille, de demander à Madame Mathieu et au père Jacques de corroborer ce récit. Je sais, que les choses se sont passées ainsi. Je ferai simplement appel au souvenir de M. Larsan, qui, lui, comprend déjà comment j'ai tout appris, car il m'a vu le lendemain matin, penché sur une double piste où l'on rencontrait, voyageurs de compagnie, l'empreinte des pas du père Jacques et de ceux de madame. Ici, Rouletabille se tourna vers madame Mathieu, qui était restée à la barre, et lui fit un salut galant. Les empreintes des pieds de madame, expliqua Rouletabille, ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin. Madame Mathieu tressaillit et fixa avec une curiosité farouche le jeune reporter. Qu'osait-il dire? Mais que voulait-il dire? Madame a le pied élégant, long et plutôt un peu grand pour une femme. C'est au bout pointu de la bottine près, le pied de l'assassin. Il y eut quelques mouvements dans l'auditoire. Rouletabille, d'un geste, les fit cesser. On lui dit vraiment que c'était lui, maintenant, qui commandait la police de l'audience. « Oh, je m'empresse de dire, fit-il, que ceci ne signifie pas grand-chose, et qu'un policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables, sans mettre une idée générale autour, irait tout de go à l'erreur judiciaire. » Monsieur Robert Darzac, lui aussi, a les pieds de l'assassin, et cependant, il n'est pas l'assassin. Nouveau mouvement. Le président demanda à madame Mathieu. « C'est bien ainsi que ce soir-là, les choses se sont passées pour vous, madame ?»« Oui, monsieur le président, » répondit-elle. C'est à croire que monsieur Rouletabille était derrière nous. « Ah, vous avez donc vu fuir l'assassin jusqu'à l'extrémité de l'aile droite, madame ?»« Oui, comme j'ai vu emporter, une minute plus tard, le cadavre du garde. »« Et l'assassin, qu'est-il devenu ? Vous étiez resté seul dans la cour d'honneur, il serait tout naturel que vous l'ayez aperçu alors. Il ignorait votre présence et le moment était venu pour lui de s'échapper. » « Je n'ai rien vu, monsieur le président, gémit madame Mathieu. À ce moment, la nuit était devenue très noire. » C'est donc, fit le président, monsieur Rouletabille qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui. Évidemment, répliqua aussitôt le jeune homme avec une telle assurance que le président lui-même ne put s'empêcher de sourire. Et Rouletabille reprit la parole. Il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement du bout de cour dans lequel il était entré sans que nous le vissions. Si nous ne l'avions pas vu, nous l'eussions touché. C'est un pauvre petit bout de cour de rien du tout, un carré entouré de fossés et de hautes grilles. L'assassin eût marché sur nous, nous eussions marché sur lui. Ce carré était aussi quasi-matériellement formé par les fossés, les grilles et par nous-mêmes que la chambre jaune. Alors, dites-nous donc, puisque l'homme est entré dans ce carré, dites-nous donc comment il se fait que vous ne l'ayez point trouvé. Voilà une demi-heure que je ne vous demande que cela. Rouletabille ressortit une fois encore l'oignon qui garnissait la poche de son gilet. Il y jeta un regard calme et dit « Monsieur le Président, vous pouvez me demander cela encore pendant 3h30. Je ne pourrai vous répondre sur ce point qu'à 6h30. » Cette fois-ci, les murmures ne furent ni hostiles ni désappointés. On commençait à avoir confiance en Rouletabille. On lui faisait confiance. Et l'on s'amusait de cette prétention qu'il avait de fixer une heure au président, comme il eût fixé un rendez-vous à un camarade. Quant au président, après s'être demandé s'il devait se fâcher, il prit son parti de s'amuser de ce gamin comme tout le monde. Rouletabille dégageait de la sympathie et le président en était déjà tout imprégné. Enfin, il avait si nettement défini le rôle de Madame Mathieu dans l'affaire et si bien expliqué chacun de ses gestes cette nuit-là que M. de Rocoux se voyait obligé de le prendre presque au sérieux. « Eh bien, M. Rouletabille, fit-il, c'est comme vous voudrez, mais que je ne vous envoie plus avant 6h30. » Rouletabille salua le président et, dodelinant de sa grosse tête, se dirigea vers la porte des témoins. Son regard me cherchait. Il ne me vit point. Alors je me dégageai tout doucement de la foule qui m'enserrait et je sortis de la salle d'audience presque en même temps que Rouletabille. Cet excellent ami m'accueillit avec effusion. Il était heureux et loquace. Il me secouait les mains avec jubilation. Je lui dis, « Oh, je ne vous demanderai point, mon cher ami, ce que vous êtes allé faire en Amérique. Vous me répliqueriez sans doute, comme au président, que vous ne pouvez me répondre qu'à 6h30. Non, mon cher Sinclair, je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique, parce que vous, vous êtes un ami. Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. Vraiment, vraiment le nom de la seconde moitié, mais parfaitement. Quand nous avons quitté le Glandier pour la dernière fois, je connaissais les deux moitiés de l'assassin et le nom de l'une de ces moitiés. C'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique. Nous entrions à ce moment dans la salle des témoins. Ils vinrent tous à Rouletabille avec force démonstration. Le reporter fut très aimable, si ce n'est avec Arthur Hans, auquel il montra une froideur marquée. Frédéric Larsan, entrant alors dans la salle, Rouletabille alla à lui, lui administra une de ces poignées de main dont il avait le douloureux secret et dont on revient avec les phalanges brisées. Pour lui montrer tant de sympathie, Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir roulé. Larsan souriait, sûr de lui-même, et lui demandant à son tour ce qu'il était allé faire en Amérique. Alors Rouletabille, très aimable, le prit par le bras, et il lui conta 10 anecdotes de son voyage. À un moment, ils s'éloignèrent, s'entretenant de choses plus sérieuses, et par discrétion, je les quittai. Du reste, j'étais fort curieux de rentrer dans la salle d'audience, où l'interrogatoire des témoins continuait. Je retournai à ma place, et je pus constater tout de suite que le public n'attachait qu'une importance relative à ce qui se passait alors, et qu'il attendait impatiemment 6h30. Ces 6h30 sonnèrent, et Joseph Rouletabille fut à nouveau introduit. Décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit des yeux à la barre serait impossible. On ne respirait plus. M. Robert Darzac s'était levé à son banc, il était pâle comme un mort. Le président dit avec gravité, « Je ne vous fais pas prêter serment, monsieur, vous n'avez pas été cité régulièrement, mais j'espère qu'il n'est pas besoin de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. » Et il ajouta, menaçant, « Toute l'importance de ces paroles pour vous, sinon pour les autres. » Rouletabille, nullement ému, le regardait. Il dit, « Oui, monsieur. » « Voyons, fit le président. Nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui avait servi de refuge à l'assassin, et vous nous promettez de nous dire à 6h30 comment l'assassin s'est enfui de ce bout de cour et aussi le nom de l'assassin. Il est 6h35, monsieur Rouletabille, et nous ne savons encore rien. » « Voilà, monsieur, commença mon ami au milieu d'un silence si solennel que je ne me rappelle pas en avoir vu de semblable. Je vous ai dit que ce bout de cour était fermé et qu'il était impossible pour l'assassin de s'échapper de ce carré sans que ceux qui étaient à sa recherche s'en apertussent. Mais c'est l'exacte vérité. Quand nous étions là, dans le carré de Boutecourt, l'assassin s'y trouvait encore avec nous. Et vous ne l'avez pas vu, c'est bien ce que l'accusation prétend. Et nous l'avons tous vu, monsieur le président, s'écria Rouletabille. Et vous ne l'avez pas arrêté ? Il n'y avait que moi qui sus qu'il était l'assassin. Et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Et puis je n'avais d'autre preuve à ce moment que ma raison. Oui, seule ma raison me prouvait que l'assassin était là et que nous le voyions. J'ai pris mon temps pour apporter aujourd'hui en cour d'assises une preuve irréfutable et qui, oh, je m'y engage, contentera tout le monde. « Mais parlez, parlez, monsieur, dites-nous quel est le nom de l'assassin, » fit le président. « Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour, » répliqua Rouletabille, qui, lui, ne semblait pas pressé. On commençait à s'impatienter dans la salle. « le nom !» murmurait-on. Rouletabille, sur un ton qui méritait des gifles, dit « Je laisse un peu traîner cette déposition, la mienne, monsieur le président, parce que j'ai des raisons pour cela. » « le nom !» répétait la foule. « Silence !» glapit l'huissier, le président dit. « Il faut tout de suite nous dire le nom, monsieur. Ce qui se trouvait dans le bout de cour était le garde-mort. « Est-ce lui, l'assassin ?»« Non, monsieur. » « Le père Jacques ?»« Non, monsieur. » « Le concierge Bernier ? Non, monsieur. »« Monsieur Sinclair ? Non, monsieur. »« Monsieur Arthur William Rance, alors ? Il ne reste que monsieur Arthur Rance et vous. »« Vous n'êtes pas l'assassin, non ? Non, monsieur. »« Alors vous accusez monsieur Arthur Rance ? Non, monsieur. »« Bon, je ne comprends plus. Où voulez-vous en venir ? Il n'y avait plus personne dans le bout de cour. » « Si, monsieur, il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous, mais il y avait quelqu'un au-dessus, quelqu'un penché à sa fenêtre sur le bout de cour. »« Frédéric Larsan !» s'écria le président. « Frédéric Larsan !» répondit d'une voix éclatante Rouletabille. Et se retournant vers le public, qui faisait entendre déjà des protestations, il lui lança ces mots avec une force dont je ne croyais pas capable. « Frédéric Larsan, l'assassin !» Une clameur où s'exprimaient l'ahurissement, la consternation, l'indignation, l'incrédulité et chez certains l'enthousiasme pour le petit bonhomme, assez audacieux pour oser une pareille accusation, remplit la salle. Le président n'essaya même pas de la calmer. Quand elle fut tombée d'elle-même, sous les chutes énergiques de ceux qui voulaient tout de suite en savoir davantage, on entendit distinctement Robert Darzac, qui se laissant retomber sur son banc, disait « C'est impossible, il est fou !» Le président « Vous osez, monsieur, à accuser Frédéric Larsan ? Voyez l'effet d'une pareille accusation ?» Monsieur Robert Darzac lui-même vous traite de fou. Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. Des preuves, monsieur ? Vous voulez des preuves ? Oh, mais je vais vous en donner une de preuve, fit la voix aiguë de Rouletabille. Qu'on fasse venir Frédéric Larsan. Le président. Huissier, appelez Frédéric Larsan. L'huissier courut à la petite porte, l'ouvrit et disparut. La petite porte était restée ouverte. Tous les yeux étaient sur cette petite porte. L'huissier réapparut. Il s'avança au milieu du prétoire et dit « Monsieur le Président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers 4 heures et on ne l'a plus revu. » Rouletabille clama triomphant « Ma preuve, la voilà !» Mais expliquez-vous, quelle preuve ? Demanda le président. Ma preuve irréfutable, fit le jeune reporter. Ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Larsan ? Je vous jure qu'il ne reviendrait pas, allez, vous ne reverrez plus, Frédéric Larsan. Rumeur au fond de la salle. Si vous ne vous manquez pas de la justice, pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas profité de ce que Larsan était avec vous à cette barre pour l'accuser en face ? Au moins, il aurait pu vous répondre. Mais quelle réponse eût été plus complète que celle-ci, monsieur le président ? Il ne me répond pas, il ne me répondra jamais. J'accuse Larsan d'être l'assassin et il se sauve. Vous trouvez que ce n'est pas une réponse, ça ? Mais nous ne voulons pas croire, nous ne croyons point que Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. Comment se serait-il sauvé ? Il ne savait pas que vous alliez l'accuser. Mais si, monsieur, il le savait, puisque je lui ai appris moi-même tout à l'heure. Vous avez fait cela ? Vous croyez que Larsan est l'assassin et vous lui donnez les moyens de fuir ? Oui, monsieur le président, j'ai fait cela, répliqua Rouletabille avec orgueil. Je ne suis pas de la justice, moi, je ne suis pas de la police, moi. Je suis un humble journaliste et mon métier n'est point de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux, c'est mon affaire. Préservez, vous autres, la société comme vous pouvez, mais c'est la vôtre. Mais ce n'est pas moi qui apporterai une tête au bourreau. Si vous êtes juste, monsieur le président, et vous l'êtes, vous trouverez que j'ai raison. Ne vous ai-je pas dit tout à l'heure que vous comprendriez que je ne pouvais prononcer le nom de l'assassin avant 6h30 ? J'avais calculé que ce temps était nécessaire pour avertir Frédéric Larsan, lui permettre de prendre le train de 4h17 pour Paris, où il saurait se mettre en sûreté. 1 heure pour arriver à Paris, 1h15 pour qu'il pût faire disparaître toute trace de son passage, cela nous amenait à 6h30. « Vous ne retrouverez pas Frédéric Larsan, » déclara Rouletabille en fixant M. Robert Darzac. Ah, il est trop malin. C'est un homme qui vous a toujours échappé et que vous avez longtemps et vainement poursuivi. S'il est moins fort que moi, ajouta Rouletabille, en riant de bon cœur et en riant tout seul, car personne n'avait plus envie de rire, il est plus fort que toutes les polices de la terre. Cet homme qui, depuis 4 ans, s'est introduit dans la sûreté et y est devenu célèbre sous le nom de Frédéric Larsan, est autrement célèbre sous un autre nom que vous connaissez bien. Frédéric Larsan, monsieur le président, c'est Ballmeyer. Ballmeyer, s'écria le président. Ballmeyer, fit Robert Darzac en se soulevant. Ballmeyer, c'était donc vrai. Ah, ah, monsieur Darzac, vous ne croyez plus que je suis fou maintenant ? Ballmeyer, Ballmeyer, Ballmeyer. On n'entendait plus que ce nom dans la salle. Le président suspendit l'audience. Vous pensez, si cette suspension d'audience fut mouvementée, le public avait de quoi s'occuper. Ballmeyer. On trouvait décidément le gamin épatant. Ballmeyer. Mais le bruit de sa mort avait couru, il y avait de cela quelques semaines. Ballmeyer avait donc échappé à la mort, comme toute sa vie il avait échappé aux gendarmes. Mais est-il nécessaire que je rappelle ici les hauts faits de Ballmeyer ? Ils ont pendant 20 ans défrayé la chronique judiciaire et la rubrique des faits divers, et si quelques-uns de mes lecteurs ont oublié l'affaire de la Chambre jaune, ce nom de Ballmeyer n'est certainement pas sorti de leur mémoire. Ballmeyer fut le type même de l'escroc du grand monde. Il n'était point le gentleman plus gentleman que lui. Il n'était point le prestidigitateur plus habile de ses doigts que lui. Il n'était point d'apache, comme on dit aujourd'hui, plus audacieux et plus terrible que lui. Reçu dans la meilleure société, inscrit dans les cercles les plus fermés, il avait volé l'honneur des familles et l'argent des pontes avec une maestria qui ne fut jamais dépassée. Dans certaines occasions difficiles, il n'avait pas hésité à faire le coup de couteau ou le coup de l'os de bouton. Du reste, il n'hésitait jamais et aucune entreprise n'était au-dessus de ses forces. Étant tombé une fois entre les mains de la justice, il s'échappa le matin de son procès en jetant du poivre dans les yeux des gardes qui le conduisaient à la cour d'assises. On sut plus tard que le jour de sa fuite, pendant que les plus fins limiers de la sûreté étaient à ses trousses, il assistait tranquillement, nullement maquillé, à une première du théâtre français. Il avait ensuite quitté la France pour travailler en Amérique, et la police de l'État d'Ohio avait un beau jour mis la main sur l'exceptionnel bandit. Mais le lendemain, il s'échappait encore. Ballmeyer, il faudrait un volume pour parler ici de Ballmeyer. Et c'est cet homme qui était devenu Frédéric Larsan. Et c'est ce petit gamin de Rouletabille qui avait découvert cela. Et c'est lui aussi, ce moutard, qui connaissant le passé de Ballmeyer, lui permettait une fois de plus de faire la nique à la société en lui fournissant le moyen de s'échapper. À ce dernier point de vue, je ne pouvais qu'admirer Rouletabille, car je savais que son dessein était de servir jusqu'au bout M. Robert Darzac et Mlle Stangerson en les débarrassant d'un bandit sans qu'il parlât. On n'était pas encore remis d'une pareille révélation, et j'entendais déjà les plus pressés s'écrier « Mais en admettant que l'assassin soit Frédéric Larsan, ça ne nous explique pas comment il est sorti de la chambre jaune !» quand l'audience fut reprise. Rouletabille fut appelé immédiatement à la barre, et son interrogatoire, car il s'agissait là plutôt d'un interrogatoire que d'une déposition, reprit. Le président. Vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur, qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour. J'admets avec vous, je veux bien admettre que, puisque Frédéric Larsan se trouvait penché à sa fenêtre au-dessus de vous, il fut encore dans ce bout de cour, mais pour se trouver à sa fenêtre, il lui avait fallu quitter ce bout de cour. Il s'était donc enfui, et comment ? Rouletabille. J'ai dit qu'il n'avait pu s'enfuir normalement. Il s'est donc enfui anormalement. Car le bout de cour, je l'ai dit aussi, n'était que quasi fermé, tandis que la chambre jaune l'était tout à fait. On pouvait grimper au mur, chose impossible dans la chambre jaune, se jeter sur la terrasse, et de là, pendant que nous étions penchés sur le cadavre du garde, pénétrer de la terrasse dans la galerie par la fenêtre qui donne juste au-dessus. Larsan n'avait plus qu'un pas à faire pour être dans sa chambre, ouvrir sa fenêtre et nous parler. Ceci n'était qu'un jeu d'enfant pour un acrobate de la force de Ballmeyer. Et, monsieur le président, voici la preuve de ce que j'avance. Ici, Rouletabille tira de la poche de son veston un petit paquet qu'il ouvrit et dont il tira une cheville. Tenez, monsieur le président, voici une cheville qui s'adapte parfaitement dans un trou que l'on trouve encore dans le corbeau de droite qui soutient la terrasse en encorbellement. Larsan, qui prévoyait tout et qui songeait à tous les moyens de fuite autour de sa chambre, chose nécessaire quand on joue son jeu, avait enfoncé préalablement cette cheville dans ce corbeau. Un pied sur la borne qui est au coin du château, un autre pied sur la cheville, une main à la corniche de la porte du garde, l'autre main à la terrasse, et Frédéric Larsan disparaît dans les airs. D'autant mieux qu'il est fort ingambe et que ce soir-là, il n'était nullement endormi par un narcotique. Un narcotique, comme il avait voulu nous le faire croire. Nous avions dîné avec lui, monsieur le président, et au dessert, il nous joua le coup du monsieur qui tombe de sommeil, car il avait besoin d'être lui aussi endormi, pour que le lendemain on ne s'étonnât point que moi, Joseph Rouletabille, j'ai été victime d'un narcotique en dînant avec Larsan. Du moment que nous avions subi le même sort, les soupçons ne l'atteignaient point et s'égaraient ailleurs. Car moi, monsieur le président, moi j'ai bel et bien été endormi et par Larsan lui-même, et comment ? Si je n'avais pas été dans ce triste état, jamais Larsan ne se serait introduit dans la chambre de mademoiselle Stangerson ce soir-là, et le malheur ne serait pas arrivé. On entendit un gémissement. C'était monsieur Darzac qui n'avait pu retenir sa douloureuse plainte. « Vous comprenez, ajouta Rouletabille, que couchant à côté de lui, je gênais particulièrement Larsan cette nuit-là, car il savait, ou du moins il pouvait se douter, que cette nuit-là je veillais. Naturellement, il ne pouvait pas croire une seconde que je le soupçonnais, lui, mais je pouvais le découvrir au moment où il sortait de sa chambre pour se rendre dans celle de mademoiselle Stangerson. Il attendit cette nuit-là pour pénétrer chez mademoiselle Stangerson, que je fusse endormi et que mon ami Sinclair fût occupé dans ma propre chambre à me réveiller. Et 10 minutes plus tard, mademoiselle Stangerson criait à la mort. Mais comment êtes-vous arrivé à soupçonner alors Frédéric Larsan ? Demanda le président. Ben, le bon bout de ma raison me l'avait indiqué, monsieur le président. Aussi, j'avais l'œil sur lui. Mais c'est un homme terriblement fort et j'avais pas prévu le coup du narcotique. Oui, oui, ah, le bon bout de ma raison me l'avait montré. Mais il me fallait une preuve palpable, comme qui dirait, le voir au bout de mes yeux après l'avoir vu au bout de ma raison. Qu'est-ce que vous entendez par le bon bout de votre raison ? Eh, monsieur le président, la raison a deux bouts, le bon et le mauvais. Il n'y en a qu'un sur lequel vous puissiez vous appuyer avec solidité, c'est le bon. On le reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer, ce bout-là. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Au lendemain de la galerie inexplicable, alors que j'étais comme le dernier des misérables hommes qui ne savent point se servir de leur raison, parce qu'ils ne savent pas où la prendre, que j'étais courbé sur la terre et sur les fallacieuses traces sensibles, je me suis relevé soudain en m'appuyant sur le bon bout de ma raison, et je suis monté dans la galerie. Là, je me suis rendu compte que l'assassin que nous avions poursuivi n'avait pu cette fois ni normalement ni anormalement quitter la galerie. Alors, avec le bon bout de ma raison, j'ai tracé un cercle dans lequel j'ai enfermé le problème, et autour du cercle, j'ai déposé mentalement ces lettres flamboyantes. Puisque l'assassin ne peut pas être en dehors du cercle, il est dedans. Et qui vois-je donc dans ce cercle ? Le bon bout de ma raison me montre, outre l'assassin qui doit nécessairement s'y trouver, le père Jacques, M. Stangerson, Frédéric Larsan et moi. Cela devait donc faire avec l'assassin 5 personnages. Or, quand je cherche dans le cercle, ou si vous préférez dans la galerie, pour parler matériellement, je ne trouve que 4 personnages. Et il est démontré que le 5e n'a pas pu s'enfuir, n'a pas pu sortir du cercle. Donc, j'ai dans le cercle un personnage qui est 2, c'est-à-dire qu'il est, outre son personnage, le personnage de l'assassin. Et pourquoi ne m'en étais-je pas aperçu déjà ? Ben, tout simplement parce que le phénomène du doublement du personnage ne s'était pas passé sous mes yeux. Avec qui des quatre personnes enfermées dans ce cercle l'assassin a-t-il pu se doubler sans que je l'aperçoive ? Certainement pas avec les personnes qui me sont apparues à un moment dédoublées de l'assassin. Ainsi ai-je vu en même temps, dans la galerie, M. Stangerson et l'assassin, le père Jacques et l'assassin, moi et l'assassin. L'assassin ne saurait donc être ni M. Stangerson, ni le père Jacques, ni moi. Et puis, si c'était moi l'assassin, je le saurais bien, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Avais-je vu en même temps Frédéric Larsen, l'assassin ? Non. Non, il s'était passé 2 secondes pendant lesquelles j'avais perdu de vue l'assassin, car celui-ci était arrivé, comme je l'ai du reste noté dans mes papiers, 2 secondes avant M. Stangerson, le père Jacques et moi, au carrefour des deux galeries. Cela avait suffi à Larsen pour enfiler la galerie tournante, enlever sa fausse barbe d'un tour de main, se retourner et se heurter à nous comme s'il poursuivait l'assassin. Oh, Ballmeyer en a fait bien d'autres. Et vous pensez bien que ce n'était qu'un jeu pour lui de se grimer, de telle sorte qu'il apparut tantôt avec sa barbe rouge à Mademoiselle Stangerson, tantôt à un employé de poste avec un collier de barbe châtain qui le faisait ressembler à M. Darzac dont il avait juré la perte. Oui, le bon bout de ma raison me rapprochait ces deux personnages, ou plutôt ces deux moitiés de personnages que je n'avais pas vus en même temps. Frédéric Larsen et l'inconnu que je poursuivais, pour en faire l'être mystérieux et formidable que je cherchais, l'assassin. Cette révélation me bouleversa. J'essayais de me ressaisir en m'occupant un peu des traces sensibles, des signes extérieurs qui m'avaient jusqu'alors égaré et qu'il fallait normalement faire entrer dans le cercle tracé par le bon bout de ma raison. Quels étaient tout d'abord les principaux signes extérieurs cette nuit-là qui m'avaient éloigné de l'idée d'un Frédéric Larsen assassin ? Premièrement, j'avais vu l'inconnu dans la chambre de Mlle Stangerson et courant à la chambre de Frédéric Larsen, j'y avais trouvé Frédéric Larsen bouffi de sommeil. Deuxièmement, l'échelle. Troisièmement, j'avais placé Frédéric Larsen au bout de la galerie tournante en lui disant que j'allais sauter dans la chambre de Mlle Stangerson pour essayer de prendre l'assassin. Oh, j'étais retourné dans la chambre de Mlle Stangerson où j'avais retrouvé mon inconnu. Le premier signe extérieur ne m'embarrassa guère. Il est probable que lorsque je descendis de mon échelle après avoir vu l'inconnu dans la chambre de Mlle Stangerson, celui-ci avait déjà fini ce qu'il avait à y faire. Alors pendant que je rentrais dans le château, il rentrait lui dans la chambre de Frédéric Larsen, se déshabillait en 2 temps 3 mouvements, et quand je venais frapper à sa porte un petit peu plus tard, il montrait un visage de Frédéric Larsen, ensommeillé à plaisir. Le second signe, l'échelle, ne m'embarrassa pas davantage. Il était évident que si l'assassin était Larsen, il n'avait pas besoin d'échelle pour s'introduire dans le château puisque Larsen couchait à côté de moi. Mais cette échelle devait faire croire à la venue de l'assassin de l'extérieur, chose nécessaire au système de Larsen puisque cette nuit-là, M. Darzac n'était pas au château. Enfin, cette échelle, en tout état de cause, pouvait faciliter la fuite de Larsen. Mais le troisième signe extérieur me déroutait tout à fait. Ayant placé Larsen au bout de la galerie tournante, je ne pouvais expliquer qu'il eût profité du moment où j'allais dans l'aile gauche du château, trouver M. Stangerson et le père Jacques, pour retourner dans la chambre de Mlle Stangerson. C'était là un geste bien dangereux, il risquait de se faire prendre. Et il le savait. Et il a failli se faire prendre, n'ayant pas eu le temps de regagner son poste comme il l'avait certainement espéré. Il fallait qu'il eût, pour retourner dans la chambre, une raison bien nécessaire qui lui fût apparue tout d'un coup après mon départ, car il n'aurait pas sans cela prêté son revolver. Quant à moi, quand j'envoyais le père Jacques au bout de la galerie droite, je croyais naturellement que Larsan était toujours à son poste au bout de la galerie tournante, et le père Jacques lui-même, à qui du reste je n'avais point donné de détails, en se rendant à son poste, ne regarda pas, lorsqu'il passa à l'intersection des deux galeries, si Larsan était au sien. Le père Jacques ne songeait alors qu'à exécuter mes ordres rapidement. Et quelle était donc cette raison imprévue qui avait pu conduire Larsan une seconde fois dans la chambre? Quelle était-elle? Je pensais que ce pouvait être qu'une marque sensible de son passage qui le dénonçait. Mais il avait oublié quelque chose de très important dans la chambre. Quoi? Avait-il retrouvé cette chose? Je me rappelais la bougie sur le parquet et l'homme courbé. Je priai Madame Bernier, qui faisait la chambre, de chercher, et elle trouva un binocle. Ce binocle, monsieur le président. Et Rouletabille sortit de son petit paquet le binocle que nous connaissons déjà. Quand je vis ce binocle, je fus épouvanté. Je n'avais jamais vu de binocle à Larsan. S'il n'en mettait pas, c'est donc qu'il n'en avait pas besoin. Il en avait moins besoin encore, alors, dans un moment où la liberté de ses mouvements lui était chose si précieuse. Que signifiait ce binocle? Il n'entrait point dans mon cercle, à moins qu'il ne fût celui d'un presbyte, m'exclamai-je tout à coup. En effet, je n'avais jamais vu écrire Larsan, je ne l'avais jamais vu lire. Il pouvait donc être presbyte. On savait certainement à la sûreté qu'il était presbyte, s'il l'était. On connaissait sans doute son binocle. Le binocle du presbyte Larsan, trouvé dans la chambre de Mlle Stangerson, après le mystère de la galerie inexplicable, mais cela devenait terrible pour Larsan. Ainsi s'expliquait le retour de Larsan dans la chambre. Et en effet, Larsan Ballmeyer est bien presbyte, et ce binocle que le reconnaîtra peut-être à la sûreté est bien le sien. « Vous voyez, monsieur, quel est mon système ?» continua Rouletabille. « Je ne demande pas aux signes extérieurs de m'apprendre la vérité. Je leur demande simplement de ne pas aller contre la vérité, que m'a désigné le bon bout de ma raison. » Et pour être tout à fait sûr de la vérité sur Larsan, car Larsan, assassin, était une exception qui méritait que l'on s'entourât de quelques garanties, j'eus le tort de vouloir voir sa figure. Mais j'en ai été bien puni. Je crois que c'est le bon bout de ma raison qui s'est vengé de ce que, depuis la galerie inexplicable, je ne me sois pas appuyé solidement, définitivement et en toute confiance sur lui, négligeant magnifiquement de trouver d'autres preuves de sa culpabilité et de Larsan que celle de ma raison. Alors, Mademoiselle Stangerson a été frappée, et Rouletabille s'arrêta. Il se bouche, vivement ému. « Mais qu'est-ce que Larsan, demanda le président, venait faire dans cette chambre? Pourquoi a-t-il tenté d'assassiner à deux reprises Mademoiselle Stangerson? Ben parce qu'il l'adorait, monsieur le président. Voilà évidemment une raison. Oui, monsieur, une raison péremptoire. Il était amoureux fou. Et à cause de cela, oh, et de bien d'autres choses aussi, capable de tous les crimes. Mademoiselle Stangerson le savait. Oui, monsieur. Mais elle ignorait naturellement que l'individu qui la poursuivait aussi fut Frédéric Larsan, sans quoi Frédéric Larsan ne serait pas venu s'installer au château et n'aurait pas, la nuit de la galerie inexplicable, pénétré avec nous auprès de Mademoiselle Stangerson après l'affaire. J'ai remarqué du reste qu'il s'était tenu dans l'ombre et qu'il avait continuellement la face baissée. Ses yeux devaient chercher le binocle perdu. Mademoiselle Stangerson a eu à subir les poursuites et les attaques de Larsan sous un nom et sous un déguisement que nous ignorions, mais qu'elle pouvait connaître déjà. « Et vous, monsieur Darzac ?» demanda le président. « Vous avez peut-être, à ce propos, reçu les confidences de Mademoiselle Stangerson. Comment se fait-il que Mademoiselle Stangerson n'ait parlé de cela à personne ? Cela aurait pu mettre la justice sur les traces de l'assassin. Et si vous êtes innocent, vous aurez épargné la douleur d'être accusé. » Mademoiselle Stangerson ne m'a rien dit, fit M. Darzac. Ce que dit ce jeune homme vous paraît-il possible ? Demanda encore le président. Imperturbablement, M. Robert Darzac répondit. Mademoiselle Stangerson ne m'a rien dit. Mais comment expliquez-vous que la nuit de l'assassinat du garde, reprit le président, en se tournant vers Rouletabille, l'assassin ait rapporté les papiers volés à M. Stangerson? Comment expliquez-vous que l'assassin se soit introduit dans la chambre fermée de Mademoiselle Stangerson? Oh, quant à cette dernière question, il est facile, je crois, d'y répondre. Un homme comme Larsan Ballmeyer devait se procurer ou faire faire facilement les clés qui lui étaient nécessaires. Quant au vol des documents, je crois que Larsan n'y avait pas d'abord songé. Espionnant partout Mademoiselle Stangerson, bien décidé à empêcher son mariage avec M. Robert Darzac, il suit un jour Mademoiselle Stangerson et M. Robert Darzac dans les grands magasins de la Louve, s'empare du réticule de Mademoiselle Stangerson que celle-ci perd ou se laisse prendre. Dans ce réticule, il y a une clé à tête de cuivre. Il ne sait pas l'importance qu'a cette clé. Elle lui est révélée par la note que fait paraître Mademoiselle Stangerson dans les journaux. Il écrit à Mademoiselle Stangerson, poste restante, comme la note l'en prie. Il demande sans doute un rendez-vous en faisant savoir que celui qui a le réticule et la clé est celui qui la poursuit depuis quelque temps de son amour. Il ne reçoit pas de réponse. Il va constater au bureau 40 que la lettre n'est plus là. Il y va, ayant pris déjà l'allure et autant que possible l'habit de M. Darzac, car décidé à tout pour avoir Mademoiselle Stangerson, il a tout préparé pour que, quoi qu'il arrive, M. Darzac, aimé de Mademoiselle Stangerson, M. Darzac qu'il déteste et dont il veut la perte, passe pour le coupable. Je dis « quoi qu'il arrive », mais je pense que Larsan ne pensait pas encore qu'il en serait réduit à l'assassinat. Dans tous les cas, ces précautions sont prises pour compromettre Mademoiselle Stangerson sous le déguisement d'Arzac. Larsan a du reste à peu près la taille de Darzac et quasi le même pied. Il ne lui serait pas difficile, s'il est nécessaire, après avoir dessiné l'empreinte du pied de M. Darzac, de se faire faire sur ce dessin des chaussures qu'il chaussera. Ce sont là trucs enfantins pour Larsan Ballmeyer. Donc, pas de réponse à sa lettre, pas de rendez-vous, et il a toujours la petite clé précieuse dans sa poche. Eh bien, puisque Mademoiselle Stangerson ne vient pas à lui, il ira à elle. Depuis longtemps, son plan est fait. Il s'est documenté sur le glandier, sur le pavillon. Un après-midi, alors que M. et Mlle Stangerson viennent de sortir pour la promenade et que le père Jacques lui-même est parti, il s'introduit dans le pavillon par la fenêtre du vestibule. Il est seul, pour le moment. Il a des loisirs. Il regarde les meubles. L'un d'eux, fort curieux, ressemblant à un coffre-fort, a une toute petite serrure. Tiens, tiens, cela l'intéresse. Comme il a sur lui la petite clé de cuivre, il y pense, liaison d'idées. Il essaie la clé dans la serrure, la porte s'ouvre. Des papiers, oh, il faut que ces papiers soient bien précieux pour qu'on les ait enfermés dans un meuble aussi particulier, pour qu'on tienne tant à la clé qui ouvre ce meuble. Eh, cela peut toujours servir à un petit chantage. Cela l'aidera peut-être dans ses desseins amoureux. Vite, il fait un paquet de ses paperasses et va le déposer dans le lavatory du vestibule. Entre l'expédition du pavillon et la nuit de l'assassinat du garde, Larsan a eu le temps de voir ce qu'étaient ces papiers. Comment, quand ferait-il? Ils sont plutôt compromettants. Alors cette nuit-là, il les rapporte au château. Peut-être a-t-il espéré du retour de ces papiers qui représentaient 20 ans de travaux une reconnaissance quelconque de Mademoiselle Stangerson. Tout est possible dans un cerveau comme celui-là. Enfin, quelle qu'en soit la raison, il a rapporté les papiers et il en était bien débarrassé. Rouletabille toussa et je compris ce que signifiait cette toux. Il était évidemment embarrassé à ce point de ses explications par la volonté qu'il avait de ne point donner le véritable motif de l'attitude effroyable de Larsan vis-à-vis de Mademoiselle Stangerson. Ce raisonnement était trop incomplet pour satisfaire tout le monde, et le président lui en eut certainement fait l'observation, si, malin comme un singe, Rouletabille ne s'était écrié « Maintenant, nous arrivons à l'explication du mystère de la chambre jaune.